Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Nous partons aujourd'hui entre les pages d'un programme complètement inédit. Pour ce mois de mars et les 4 prochaines semaines à venir, je veux vous inviter chaque mercredi à penser la culture. Depuis plusieurs années maintenant, de nombreuses affaires voient le jour et nous poussent à repenser notre rapport à la culture. Que ce soit au cinéma, en musique, en littérature ou à travers les autres formes d'œuvres d'art, je pense que notre jeune génération, et accompagnée aussi des autres, doit sérieusement se pencher sur la culture, comment la définir, l'expliquer s'il le faut, et comment l'enrichir intellectuellement sans céder au négationnisme. Je ne sais pas si au terme de ces 4 prochaines semaines, nous aurons trouvé une réponse, mais peut-être aurons-nous avancé dans cette réflexion de penser la culture. Au programme de nos prochaines lectures, nous allons ouvrir ensemble des essais, des discours et des romans. Vous l'aurez donc compris, pour ce mois de mars, je vous propose un temps de réflexion sur la culture, à l'aide de l'une de ces armes, aussi tendre soit-elle, qui est celle des livres. Voici donc le programme inédit de ce mois de mars, que j'ai intitulé « Penser la culture ». Pour notre première chronique de notre programme de réflexion autour de cet élément central, je souhaite ouvrir avec vous un essai. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? C'est la question que je vous pose, et c'est aussi le titre de notre livre du jour, signé par la sociologue française Gisèle Sapiro. Ce livre est paru en octobre 2020 aux éditions du Seuil et il est toujours disponible dans nos librairies indépendantes. Chers lecteurs et chères lectrices, sortez vos marque-pages culturels, nous entrons aujourd'hui dans un formidable essai pour penser ensemble la culture. Lorsqu'une œuvre est produite, l'auteur pense-t-il laisser s'imprégner ses pensées dans son texte ? Lorsqu'un cinéaste propose de porter au cinéma une immense page judiciaire du XIXe siècle, peut-il seulement dire que c'est une métaphore de sa vie? Une œuvre polémique, comme par exemple celle de Louis-Ferdinand Céline, peut-elle être étudiée et publiée dans les prestigieuses collections littéraires de la Pléiade, malgré les pamphlets antisémites publiés avant et pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'un réalisateur comme Roman Polanski peut faire des films, les faire diffuser au cinéma, mais ne pas recevoir de prix des grandes institutions? Dans cet essai de sciences sociales, Gisèle Sapiro nous ramène à un élément clé de notre histoire culturelle commune. Faut-il faire la part entre l'homme ou la femme des idées de son œuvre? Ou peut-on voir complètement l'homme dans son écrit ou dans son film? Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter un extrait de la 7e symphonie de Jean-Sébastien Bach, dirigée ici par Simon Rattel, accompagné de l'Orchestre Symphonique de Vienne. Une symphonie de Jean-Sébastien Bach que vous pouvez retrouver dans différents labels chez nos disquaires. Reprenons à présent le chemin de la littérature et de notre programme inédit « Penser la culture » qui accompagne notre premier texte du mois de mars, l'essai de Gisèle Sapiro « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» publié aux éditions du Seuil en octobre 2020. Pour commencer à ouvrir ensemble cet essai, peut-être faudrait-il se pencher sur la relation singulière qu'entretiennent l'auteur et son œuvre. Le sociologue Pierre Bourdieu pensait que l'auteur était le fils de ses œuvres, qu'il y avait donc un lien entre l'œuvre produite et la personne qui l'a produite. Derrière cette notion d'être le fils de ses œuvres, il y a une implication directe de l'auteur qui le désigne comme responsable pénal et intellectuel d'une œuvre devant les tribunaux. Mais prenons un exemple. Si je vous dis Romain Gary et Émile Ajar, pour vous, amis auditeurs et auditrices, est-ce la même personne? Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Romain Gary avait utilisé un nom d'auteur pour publier un autre texte, La vie devant soi, et ainsi remporter une deuxième fois le prix Goncourt. Ce roman avait été publié sous le nom d'Émile Ajar. Alors, pour en revenir à ma question, feriez-vous la différence entre ces deux noms pour censurer l'un mais pas l'autre, s'il y avait eu un immense scandale? Avec cette réflexion autour des noms, nous abordons la notion que le nom englobe une œuvre. De son vivant, un auteur est capable de retoucher une partie de ses textes lors d'une parution. Mais une fois mort, les ayants droit peuvent aussi sortir des tiroirs des textes pour compléter une œuvre, et ainsi aussi récolter de l'argent. Le plus grand cas de conscience que nous avons de notre littérature moderne reste celui de Louis-Ferdinand Céline. Bien qu'il soit immensément connu pour Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, qu'il soit étudié, présenté, lu, il n'en reste pas moins que Céline a été le centre de toutes les attentions lors de la guerre en publiant des pamphlets antisémites. Aujourd'hui, Céline est étudiée sans les pamphlets Bagatelle pour un massacre et L'école des cadavres. Pour autant, pour beaucoup de personnes, il y a un lien entre ces pamphlets et les autres œuvres de Céline, relié par un fil que l'auteur a conçu à travers toute son œuvre. Car dans ses pamphlets, Céline mêle à la fois des personnages de ses romans comme une partie quelque peu autobiographique. Les éditions Gallimard, qui publient encore aujourd'hui Céline, finiront par ne pas garder ce projet de réédition explicitée des pamphlets de son auteur. L'œuvre est-elle complète? Peut-on garder de Céline uniquement les textes de Mort à crédit et du Voyage au bout de la nuit, tout en expliquant avec force ses actions avant la Seconde Guerre mondiale, tout comme après? L'essai de Gisèle Sapiro aborde aussi un point plus récent. Le rappeur Orelsan a été visé par de très nombreuses plaintes concernant des propos de certaines de ses chansons perçues comme sexistes. Devant la cour du tribunal, le rappeur argumenta que son texte ne reflétait en aucun cas sa vie de tous les jours, que son personnage, de scène, lui permet de dire autre chose. Alors, feriez-vous la différence, pénalement, entre Aurélien Cotentin et Orelsan? Il est très évident de dire que pour beaucoup d'observateurs, notamment politiques, ces questions sont de la faute d'une idée très réductrice, ou alors le fruit d'un conservatisme absolu dans les règles de l'art de certaines institutions culturelles. Cet essai met aussi en lumière la difficulté de comprendre qui a pu attribuer un César à Roman Polanski alors qu'il est toujours sous le joug d'un mandat d'arrêt, en plus de nombreuses et lourdes accusations. Alors, comme expliqué dans l'essai, peut-on réinsérer ces personnes coupables? Ont-elles encore une place sur les devants de la scène? Cet essai nous parle aussi de l'affaire Gabriel Matzneff, personnage de la littérature qui a défrayé plus d'une fois la chronique, mais aussi du prix Nobel Peter Handke. Car derrière ces noms, que nous connaissons tous plus ou moins suivant leur discipline artistique où ils ont pu exercer, il y a derrière cela un vrai débat de fond. Doit-on censurer ce qui a été fait au risque d'oublier? Ou à l'inverse, préserver ce qui a été fait et donner un accès universitaire et de réflexion autour d'un texte? Pourrait-on historiciser de telles œuvres pour garder en mémoire les pires choses réalisées? En ne prenant pour ma part que la discipline des lettres et de la littérature, je m'interroge régulièrement sur Louis-Ferdinand Céline. Je l'ai étudié en cours, j'ai Voyage au bout de la nuit dans ma bibliothèque, et malgré tout le succès littéraire reconnu, je n'oublie pas ses écrits durant les heures sombres du siècle dernier. Alors, où devons-nous poser la frontière entre le produit culturel et l'homme. Je terminerai de vous parler de cet essai en vous rappelant, comme il est écrit dans la partie introductive du texte, que cet essai vise à clarifier des positions et des problématiques actuelles plus qu'à nous donner une véritable réponse. Néanmoins, en se basant sur un important travail de recherche et de documentation, Gisèle Sapiro tente d'esquisser une première ébauche de réponse à cette question actuelle majeure. C'est aussi pour cela que je voulais vous présenter cet essai aujourd'hui, qui recadre certaines idées reçues que l'on pourrait avoir et qui nous emmène vers d'autres pistes de réflexion que je juge essentielles. Ainsi va la littérature et les essais. Et il se termine notre chronique du jour, premier volet de notre thème de réflexion autour de la culture. Je vous rappelle le titre de notre texte du jour, « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» Un essai signé par Gisèle Sapiro aux éditions du Seuil depuis octobre 2020. Un essai important pour tenter de comprendre et penser notre monde culturel moderne. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre programme inédit « Penser la culture » avec une chronique en tandem autour d'un discours qui n'a pas perdu de sa force. Vous pouvez retrouver la capsule auditive de cette chronique en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine de penser la culture et pour cela, le meilleur moyen, c'est de s'entourer de livres. Je vous souhaite de belles lectures.